Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral.
À l'heure où Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, deux chefs d'État, sont inculpés par la CPI, quelle est l'histoire de cet idéal de justice internationale né à Nuremberg il y a 80 ans ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec le juriste et écrivain Philippe Sands.
Épisode 5, 2002, la Cour pénale internationale, un espoir fragile.
C'est un vieux rêve qui porte un coup décisif à ceux qui commettent des crimes de guerre, des crimes de génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Kofi Annan, le 11 avril 2002. On poursuit notre conversation qui touche bientôt à sa fin, mais il reste encore des épisodes, je crois, très importants à raconter, notamment celui-ci. Celui-ci consacré à 2002, avril 2002, la CPI, la Cour pénale internationale, se met en place. Alors, on ne va pas faire un cours de droit, mais quand même, il faut expliquer la grande différence fondamentale qu'il y a entre le TPI, Tribunal pénal international, on en a parlé, pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda, et la Cour pénale internationale. Il y a une différence fondamentale que j'ai beaucoup expliqué à mes étudiants en prépa et que vous allez expliquer encore mieux que moi.
Alors après Nuremberg, 45-46, et l'adoption de la Convention contre le génocide, les États, à cette époque, 48-49, ont décidé qu'il faut créer un cour pénal international permanente. Ils ont négocié pendant 50 ans et ça a complètement failli, ça est venu à rien. En 93-94... L'ex-Yougoslavie, Rwanda, ça propulse le désir de compléter ces négociations. Et en juillet 98, les États se réunissent à Rome pour conclure la négociation du statut de la Cour pénale internationale. Et j'y suis, conseiller juridique pour les îles Salomon, et je participe dans les négociations. Et donc, je vois tout. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais impliqué dans le procès de Pinochet.
Alors là, c'est passionnant parce que, bon, d'abord, dire quand même, rappeler que c'est désormais une cour permanente, donc qui est tout le temps en place. C'est pas un tribunal ad hoc mis en place uniquement pour tel ou tel procès. Ça change beaucoup de choses, ça, non ? Le fait que la cour soit permanente.
Ça change beaucoup. Ça veut dire que si il y a une situation d'atrocité, comme nous avons de nos jours, par exemple, en Ukraine, en Israël, en Palestine, en Soudan, on n'a pas besoin de créer un tribunal spécial après que les crimes ont eu lieu, mais il existe déjà un tribunal permanent pour juger et pour arrêter ce qui se passe. Ça, c'était la grande théorie. Et finalement, en 98, ils obtiennent une décision de conclure ce statut.
Alors, on a la chance d'avoir une petite souris qui était là. J'ai l'impression que tous les États n'étaient pas sur la même position. Qu'est-ce qui se passe en 98 ? Tout le monde ne va pas applaudir cette Cour pénale internationale, notamment peut-être ceux qui ont des choses à se reprocher. Les îles Salomon, que vous représentiez, étaient, j'imagine, très favorables à cette CPI. D'autres, comme votre collègue américain, l'étaient peut-être un peu moins.
Alors, il y avait des distinctions importantes. Il y avait la Russie, la Chine, vraiment, ils n'étaient pas pour cette idée. Les Américains, ils étaient un peu pour, un peu contre. C'était pendant M. Clinton. Oui. Les petits pays, absolument pour, les pays du Pacifique, les pays des Caraïbes avec qui je travaillais, absolument pour. Et en fait, ce qui se passe dans les grandes négociations, c'est les grands États prennent les aspects importants du statut, ils donnent aux petits pays les aspects qu'ils trouvent pas importants. Alors moi, je travaillais avec mon collègue, mon ami très proche, Andrew Clapham, professeur à l'Institut des hautes études à Genève, et on donne aux petits pays des îles Pacifiques le préambule.
Alors ça, c'est important quand même en général, non ?
Ça tombe à Andrew et moi de d'écrire le préambule.
Énorme.
Qu'est-ce qui se passe ? On inclut dans le texte du préambule l'obligation de tout État de exercer son compétence pénale sur toute personne qui est responsable pour crimes internationaux. On écrit ça dans le préambule et on pense que sûrement les grands États vont enlever tout ça. Ils n'enlèvent jamais. Et ça demeure, ça reste dans le préambule. Et quelques mois plus tard, dans le procès de Pinochet, il y a plusieurs juges qui se sont penchés sur cette ligne dans la préambule. C'est une façon d'expliquer que la création du droit pénal international prend une direction un peu bizarre où il y a ces jeunes, j'avais une trentaine d'années, qui écrivent un texte comme ça dans ce contexte.
En quoi c'est maximaliste, ce préambule, de dire que n'importe quel pays signataire doit s'occuper, dans sa justice pénale, de tout crime de guerre qui se passerait chez lui ?
C'est une façon d'exprimer une compétence universelle. On revient sur les grands principes du Nuremberg et les grands principes du procès de Pinochet. Compétence universelle pour les crimes internationaux. Ça, c'est l'aspect central de ce qui s'est passé, qui a commencé en 1945.
Tout le monde signe ?
Non. Presque tout le monde signe. Il y a à peu près 190, je pense, signatures. Finalement, les Américains signent, mais il ne ratifie jamais. Et après la présidence de Clinton, il y a la présidence de M. Bush qui enlève la signature des Américains. Après, ils reviennent avec M. Obama. Après, c'est enlevé encore avec M. Obama. Mais ils ne sont jamais devenus membres de la Cour pénale internationale, comme les Russes et comme les Chinois. La France, le Royaume-Uni, ils sont membres de la Cour pénale internationale.
Ça veut dire quoi, ne pas être membre de la Cour pénale internationale ? Concrètement, ça implique quoi ? Qu'est-ce que ça change ?
Ça veut dire que l'État n'a pas ratifié la Convention. Il y a...
Non, mais ça veut dire qu'un citoyen américain, par exemple, qui commettrait un crime de guerre en Ukraine, en Russie ou ailleurs, aurait une forme d'immunité parce qu'il est américain ?
Il y a plusieurs questions centrales dans cette pensée. Alors, comment est-ce que ça marche, le statut ? La compétence de la Cour, c'est quoi ? Crime de guerre ? Crime contre l'humanité, crime de génocide, crime d'agression. Compétence sur deux bases. Compétence sur tous nationaux de tout pays qui sont membres. Vous et moi, français, anglais, on est membres, on est soumis à la compétence.
Mais dans mon exemple, c'est un Américain.
Alors avec un Américain, deuxième base de compétence, le crime est commis sur le territoire d'une partie au statut de la Cour pénale internationale. Un Américain qui commet un acte de torture dans le territoire, par exemple, de l'Afghanistan,
qui est membre
de la Cour pénale internationale, soumis à la compétence de la Cour pénale. C'est la première question. Ça, c'est la compétence. Question de immunité. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Le statut elle-même dit que personne n'a une immunité devant la Cour pénale internationale, même un chef d'État en place. Ça marche pour les États qui sont membres de la Cour pénale internationale. Mais qu'est-ce qui se passe pour M. Poutine, chef d'État de la Russie, qui n'est pas membre de la Cour pénale internationale, ou de M. Netanyahou, chef du gouvernement d'Israël, qui n'est pas membre de la Cour pénale internationale? Les juges de la Cour pénale internationale disent que notre statut s'applique à toutes ces personnes, même si leurs États ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. En réalité, pour moi, en qualité de professeur de droit international, c'est plus complexe. Parce que je pense qu'on peut argumenter que tout chef d'État en place a une immunité personnelle et il ne peut pas perdre cette immunité qui subsiste en droit international dans une situation où son État n'est pas membre à une convention internationale qui enlève l'immunité. C'est très clair. Dans ce contexte, il y a un débat de savoir est-ce que M. Poutine, est-ce que M. Netanyahou ont, oui ou non, une immunité en ce qui concerne la Cour pénale internationale.
On y reviendra assez largement dans le dernier épisode, notamment sur cette notion de génocide qui court de notre conversation depuis le premier épisode. Mais restons avec la CPI encore un instant. On a considéré que la CPI était une cour pénale pour les pays pauvres, qui était d'abord ciblée, et c'est effectivement que beaucoup d'Africains ont été condamnés par la Cour pénale internationale, ont été en tout cas amenés devant la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est une chose que vous entendez ? Est-ce que cette Cour pénale internationale, elle raconte aussi l'asymétrie des rapports de force ? Et le mot, vous l'avez employé, ce double standard aussi qui existe dans le domaine de la justice internationale ?
Alors, c'est clair que nous avons un problème. Le statut a été adopté en juillet 1998. Il est entré en vigueur en 2002, 4 ans plus tard. Dans les premiers 20 ans de la vie de la Cour pénale internationale, toute personne inculpée et jugée par la Cour pénale internationale était des gens noirs et venaient pour la plupart de l'Afrique. les Africains n'ont pas un monopole sur les crimes internationaux. Ils n'ont pas établi leurs compétences, par exemple, sur les crimes des Britanniques en Irak, pendant la guerre de l'Irak, les actes allégués sur la torture. Ils n'ont rien fait sur les Américains et le crime de torture qui ont eu lieu à Bagram, en Afghanistan. Là, on voit vraiment le double standard. Et en fait, ça crée un problème où pas mal de pays du Sud ont dit « on se retire de ce système » parce que ce n'est pas équilibré. Et en fait, de ma perspective personnelle, on voit un peu que c'est une continuation de la ligne qui a été prise en 1945, que c'est un système déséquilibré. Il y a Balzac qui a dit, et je l'ai cité une fois dans un procès à la Cour internationale de justice, que le système de droit, c'était comme les lignes créées par un araignée. Les petits mouches sont attrapés, mais les grands arrivent à s'échapper des efforts des araignées. Et c'est un peu comme ça le système de la Cour pénale internationale. Alors, ça a changé récemment, on en viendra, mais pour les premières 20 ans de son existence, c'était déséquilibré.
Mais ce déséquilibre, il est très grave d'un point de vue moral. Est-ce qu'il n'a même pas remis en question l'existence même de la CPI, générant, j'imagine, beaucoup de ressentiments de la part de petits pays, de pays plus pauvres, qui voyaient les grands crimes. Et on est quand même dans les années 2000, qui sont les années des guerres américaines très violentes en Irak, en Afghanistan ou ailleurs.
Absolument. Et c'est pour cette raison que nous avons vraiment arrivé, 2018-2020, à une sorte de crise de la légitimité de la Cour pénale internationale. C'est un vrai problème. Et moi, je rencontre ça dans mes cours à University College London, à Harvard, avec les étudiants, et surtout les étudiants qui viennent de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Asie, qui se disent « qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? C'est un système pour nous toucher, mais vous, les Européens, vous, les Américains, vous, les Canadiens, de s'échapper, c'est pas correct comme système. » Ça allait en 45, mais en 2025, ça marche pas.
Est-ce qu'il y a tout de même des grands procès qu'on doit avoir en tête pour raconter le bilan de la CPI ? Est-ce qu'il y a des moments importants ? On a parlé de Milosevic pour le Tribunal pénal international, pour l'ex-Yougoslavie, on a comme ça des moments, des images en tête. La CPI, est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Ou bien ça reste très technique, ou des gens très secondaires, ou des histoires qu'on ne connaît pas ?
C'est secondaire. Il y a, jusqu'à là, je dois dire, c'est... Oui, il y a eu des procès. Oui, il y a même eu des jugements. Mais très, très peu. Dans les 25 ans que la Cour pénale existe. Et je me souviens pas d'un seul moment où je peux dire, voilà, quelque chose de dramatique. Il n'y a pas de moment comme Nuremberg, Göring, il n'y a pas de moment comme Pinochet, il n'y a même pas de moment comme Milosevic. Là, ça risque peut-être de changer. On y arrivera. Il y a l'arrestation très récemment de M. Duterte des Philippines. Et c'est la première fois que nous avons un ex-chef d'État qui est non seulement inculpé, mais arrêté, et qui est envoyé à la haie et qui sera maintenant soumis à un procès. On peut s'attendre à ça. Avec d'autres personnes, l'ex-leader du Soudan, M. Bachir, il n'a jamais été arrêté. Et bien sûr, nous avons les demandes d'arrestation de nos jours de M. Poutine et de M. Netanyahou.
Ce sera précisément, évidemment, l'objet de notre prochain épisode, le dernier de cette série consacrée effectivement à l'actualité la plus récente et savoir si aujourd'hui, la loi du plus fort s'impose à tout le monde. Juger les crimes de guerre, anatomie d'un combat moral, un podcast original de France Inter.